Rock City. On est une ville de rock.
Bonsoir les Québécois.
Boulevard 102 à la Gora.
Thank you and we love you.
Au centre Vidéotron. Ou dans ton char. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard.
Boulevard 102.1.
Votre partner de show.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. J'espère que tu as passé une belle journée. Si tu étais à l'intérieur, ça doit avoir bien été. Si tu étais à l'extérieur et tu travaillais, là, c'était un petit peu plus humide et un petit peu plus pluvieux. Énormément d'eau sur le circuit routier, quelques sorties de route à certains endroits. C'était pas une belle journée pour la grande région de Québec. Tant du côté de Québec que du côté de Lévis. Là. On espère que dans les prochains jours, ça se replace. Ce soir, côté météo, risque d'orage, c'est encore présent. On parle d'orage violent tôt ce soir, un minimum de 14 degrés. Pour ce qui est de demain vendredi, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 24 degrés. Samedi, ensoleillé, maximum de 24 et dimanche, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 20. Salutations à tous les travailleurs de la construction qui, si ce n'est pas déjà fait, s'en vont en congé dans les prochaines semaines, dans les deux prochaines semaines. Donc, je vous salue. J'irai vous rejoindre sur la route ou dans les endroits où il fait bon vivre et en espérant vous serrer la pince. Puis sinon, ben, on se rejoint sur les ondes de radio dans deux semaines, les amis. Mon dernier invité de la saison, c'est Nicolas Gagnon. Non pas le moindre, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, 60 minutes avec lui. Je sais que vous l'appréciez beaucoup. Donc, je parlerai pas trop. Je pèse sur le piton à l'instant et c'est parti.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
C'est toujours un plaisir de lui jaser. Son nom, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus, c'est contribuable avec un S.ca. Salut, mon ami!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, surtout que, pour la petite anecdote, là, j'avais pas vraiment lu tous les courriels qu'on m'envoie. Je reçois entre 300 et 400 courriels par jour, fait que des fois, je choisis mes combats et j'ai appris ce soir que demain, finalement, j'ai une journée de congé. Donc, j'ai fait semblant à mes patrons que j'étais parfaitement au courant que demain, c'était pour moi une journée de congé, mais je ne savais pas pantoute. C'est une bonne nouvelle, je suis en congé, je vais avoir un congé avant mes deux semaines de la construction.
C'est parfait, t'as une plus longue fin de semaine en plus, ça tombe un vendredi, je veux dire, tu peux pas avoir un meilleur alignement des planètes que ça.
Écoute, mes vacances vont être parfaites, je vais aller dans des endroits de plein air, il y aura pas un chat. Je vais aller faire mon épicerie, il y aura pas un chat. Je vais être sur la route, il y aura pas un chat. Tout le monde prend ses vacances en même temps, ce qui fait en sorte que ben, ça coûte plus cher quand on va à quelque part. Puis on a tout le temps les Québécois dans nos jambes pendant nos vacances. Peut-être qu'un jour, on veillera à donner les vacances au gars de la construction à diverses semaines dans l'année. Mais là, les deux semaines de la construction, tout arrête. Puis si tu prends des vacances, ben, ça coûte plus cher en raison du fait qu'on est plusieurs à être en vacances à ce moment-là. Toi, as-tu des vacances?
Oui, mais pas tout de suite. Moi, j'attends un petit peu avant de prendre mes vacances. Là, en fait, d'ici la fin de l'été, en fait, la première semaine de septembre, je m'en vais avec ma soeur et ma mère en Espagne. On a décidé de prendre une semaine à l'autre bout de la... Ben, pas à l'autre bout de la planète, c'est pas si loin que ça, c'est juste à l'autre côté de l'Atlantique. Mais bref, première fois que je vais vraiment en Europe, parce que la dernière fois que je suis allé en Europe, c'était cet hiver. En fait, je m'en allais en Afrique, mais j'ai fait une escale de 13 heures à Paris. Fait que la seule fois que j'étais en Europe, c'était 13 heures à Paris. Ça compte pas bien, bien. Mais au moins, j'ai eu le temps de visiter un peu. Mais là, je vais pour vrai. J'ai jamais été en Espagne, je connais très peu l'histoire, plutôt la culture locale. Ça, c'est, j'en connais un peu, mais vraiment, c'est très basic. Puis je me rends dans une région que je connais pas du tout, dans Torremolinos. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, j'ai essayé de pratiquer mon espagnol d'ici ce temps-là, puis j'ai essayé d'avoir des bons souvenirs avec ma famille sur place. Mais d'ici ce temps-là, Encore beaucoup de travail avec la Fédération canadienne des contribuables. Donc, on a beaucoup de dossiers qui sortent au compte-gouttes cet été. On a fait d'ailleurs des sorties récemment sur les salaires chez Radio-Canada, la fameuse liste des employés qui ont un salaire de plus de 100 000 chez la société Radio-Canadienne. Sinon, on a d'autres dossiers qui sortent bientôt. On finit, entre autres, notre rapport sur la transparence fiscale à la pompe, qui devrait être notre 26e rapport de la sorte. Donc, on expose des taxes sur l'essence. Ça devrait sortir pour le mois d'août. Ouais. Donc, quand les gens vont être sur les routes, ils vont en entendre parler. Tristement, ils vont se rendre compte que non seulement ça coûte cher à faire le plein durant, surtout les semaines de la construction, on se rappelle qu'il y a toujours une petite augmentation du coût de l'essence durant cette période-là, qu'on observe à chaque année, puis on se gratte toujours la tête en se demandant pourquoi.
Ben, c'est un
effet de marché.
Oui, mais c'est un hasard. Ben oui. À chaque fois qu'il y a des congés de 3 jours, 4 jours ou avant les congés de la construction, l'essence augmente, ça a toujours été un hasard. Tout le monde sait ça, tout le monde croit ça. Je ne sais pas si tu as lu l'article de ce matin, je pense que c'était dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, où on parlait des gars et des filles qui étaient propriétaires des boutiques hors taxes entre le Canada et les États-Unis. Entre autres, un gars qui s'appelle, c'est assez facile à retenir son nom c'est Éric Lapointe, pas le chanteur, mais le propriétaire d'une boutique hors taxes en Beauce, qui dit que la diminution d'achalandage fait en sorte qu'il y a 50%, plus de 50% de son chiffre d'affaires qui est parti parce que les Canadiens refusent, en raison du gros orange de l'autre côté, d'aller prendre leurs vacances aux États-Unis. C'est une catastrophe, là. C'est pas le gouvernement qui est propriétaire de ces boutiques hors taxes-là. C'est vraiment des hommes et des femmes qui se sont partis en affaires puis qui voient leur chiffre d'affaires chuter d'une façon catastrophique. Le gars est rendu tout seul dans sa boutique alors que normalement, il y a 4-5 employés. Là, il s'est gardé un employé à temps partiel puis il comble le reste des chiffres qu'il y a à combler. C'est atroce ce qui se passe. En même temps, bon, c'est probablement en raison du gros orange, mais les Américains ne sont pas responsables, là, en tout cas à moitié responsables de ce qui arrive en ayant mis le grand orange de l'autre côté. Mais je pense à tous les gens qui sont à Old Orchard ou dans le Maine, qui sont habitués d'avoir des Québécois chaque année qui se disent « Oh, cette année, ça va être un petit peu plus difficile que les dernières années ».
Ben oui, ça va être un peu plus difficile, puis c'est vraiment dommage pour tous ces commerçants-là, d'une certaine manière. Il faut dire aussi que tu sais, il y a un facteur qui joue beaucoup contre ça, c'est quand même le taux de change en ce moment. Il n'est pas très avantageux non plus pour les Canadiens. C'est même plus intéressant pour les Américains de venir nous visiter que l'inverse, ne serait-ce que parce que pour eux, le taux de change est beaucoup plus intéressant, on s'entend. Ceci étant dit, cette compétition, en fait, cette guerre commerciale que se sont lancées, ben, qu'a commencé les États-Unis, on va se le dire franchement, c'est pas tout à fait Trudeau qui a commencé la guerre tarifaire l'année passée, c'est quand même Donald Trump. Et à la fin de la journée, ça démontre à quel point les Canadiens prennent très mal cette confrontation-là. Puis aussi, on voit que ça affecte tranquillement nos industries, nos entreprises. On sait que le Canada, quand on regarde l'état des choses, ça se peut qu'on se rapproche d'une récession d'ici la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'ont sur le cœur. Il y a comme ce petit élément patriotique, mais il y a aussi le fait que les gens agissent avec leur portefeuille. Ils disent, ben, pourquoi j'irais de l'autre côté de la frontière? Il y a quand même des très beaux paysages, il y a des beaux territoires. On peut très bien se promener au Canada, au Québec, puis profiter de nos étés ici. Sinon, il y a d'autres destinations à l'extérieur des États-Unis qu'on peut trouver en Amérique ou en Europe, où est-ce qu'on peut en avoir pour notre argent. Mais effectivement, il y a des dommages collatéraux. Puis c'est quand même dommage que ce soit des commerçants comme ça qui soient affectés. Puis c'est surtout ceux qui sont proches, effectivement, comme tu l'as mentionné, des régions frontalières qui sont affectées par cette situation-là. Donc, on a une pensée pour eux, mais on va espérer surtout que la guerre commerciale prenne fin puis que le climat soit un peu plus intéressant pour tout le monde éventuellement.
Ce qui est particulier, Nick, c'est quand même que la communauté dise à ces gens-là, « Hey, on va vous aider, on va aller acheter chez vous, ils ne peuvent pas le faire. » Parce que, en raison du fait que c'est une boutique hors taxe, si tu passes là puis t'achètes une bouteille d'alcool, ben elle doit, cette bouteille d'alcool-là, être aux États-Unis au minimum 48 heures avant de revenir en sol canadien. Donc, les gens autour peuvent même pas aller encourager le gars qui a de la difficulté. Il est juste pris dans sa... Pardonne-moi l'expression, mais il est comme pris dans sa propre marde, là. Il fait juste attendre qu'à un moment donné, la guerre entre les États-Unis et le Canada se termine au niveau de l'import-export. Est-ce que Mark Carney a perdu du lustre? Parce que, bon, depuis quelque temps, on le voit, là, l'économie file au ralenti à la grandeur du Canada. Mark Carney était un gars qui nous avait été... mise en place en disant, ben savez-vous quoi, on regarde son CV très impressionnant, c'est un économiste, c'est la personne idéale pour faire face à Donald Trump. Et là, depuis qu'il est en place, on a cédé pas mal plus de choses que les Américains ont pu céder. Est-ce qu'il commence à perdre son lustre, son fameux profil économique là, idéal pour faire face au méchant orange l'autre bord? On dirait que ça n'a pas fait un pli dans la différence du gros orange l'autre côté. Là.
Non, pas du tout. Puis de toute manière, je pense pas qu'il y a un seul individu sur Terre qui pourrait intimider Donald Trump, ne serait-ce que, je veux dire, on va se le dire franchement, c'est lui-même l'intimidateur en chef. Là, on va toujours se rappeler de sa fameuse première campagne à la nomination des Républicains en 2015-2016, quand il a littéralement intimidé, je pense, une treizaine de gouverneurs, des bons du Parti républicain. En live sur des stages, et c'est comme ça qu'il est devenu finalement le président des États-Unis la première fois. Donc, je veux dire, j'aurais jamais pensé que Mark Carney ou même Pierre Poilievre ou n'importe qui se présentait dans les dernières élections fédérales aurait pu intimider Donald Trump. Malheureusement, c'est impossible. Ceci étant dit, il y a toute la question de tenir tête à Donald Trump, puis on s'entend, c'était à peu près ce sur quoi l'élection fédérale a eu lieu. Là. Le 28 avril, quand le monde sont allés voter, la question à l'urne, d'une certaine manière, c'est qui va tenir tête à Donald Trump puis défendre les intérêts canadien et par extension notre souveraineté. Et puis, ben, c'est Elbows Up, c'est Team Elbows Up de Mark Carney qui a été réélu avec un fort gouvernement minoritaire. Donc, là, on est rendu en été, on se fait apprendre 3 mois qui ont été élus, puis on a eu un paquet de reculs à plusieurs niveaux. De un, on avait appris en mai dernier, puis ça a été comme un petit peu, controversé à certains égards, c'est le fameux recul sur certains tarifs qui avaient été posés par le gouvernement canadien, parce qu'il avait levé pas loin de 30% des tarifs, puis ça, c'est un document, ou plutôt un rapport qui a été publié par la Oxford Institute, qui avait démontré que finalement, le Canada appliquait plus la totalité de ses tarifs aux Américains pour les questions de santé, de sécurité, donc sur plusieurs items. Donc, comme quoi, est-ce qu'on faisait déjà des concessions à peine un mois, en fait, c'est des concessions qui avaient été faites techniquement durant les élections, mais qui ont été annoncées après. Donc, ça démontre le grand manque de transparence. Après ça, il faut se rappeler un autre recul qui est assez mémorable. C'est un bon recul pour nous en tant que contribuables. C'est le recul sur la taxe sur les services numériques ou la fameuse TSN qui était supposée s'appliquer surtout les géants du web ou les GAFAM, donc les Google et juste au Uber de ce monde et compagnie, Amazon. Pourquoi? Ben parce qu'on dit que par souci de... Ben ça, c'est bien sûr, c'est le gouvernement qui dit ça et puis qui s'inspire énormément de l'Europe. C'est par souci d'équité. On veut prendre l'argent plutôt une partie des profits de ces grands géants du web pour les redistribuer à des acteurs locaux. C'était une taxe qui aurait été l'équivalent d'environ à peu près 3% sur les bénéfices de ces entreprises-là et qui était même rétroactif, en fait. C'est une taxe qui allait jusqu'au profit qui avait été dégagé ou les bénéfices nets de ces entreprises-là pour 2022 et jusqu'à tout récemment. Et finalement, en fait, bon, ça faisait partie des arguments de Donald Trump pour dire, ben, regardez, vous mettez en place des lois et vous mettez en place des barrières commerciales qui nuisent à des entreprises américaines. Puis après ça, vous chialez qu'on met en place des tarifs. Donc, bref, on peut effectivement dénoncer son point de vue, mais n'en reste que cette taxe-là, ce qu'on sait, c'est que ça a été inévitablement refilé aux consommateurs. Donc, une augmentation des coûts des services numériques, comme on l'a observé en Europe d'ailleurs. Et là, finalement, ben, Carney, au lieu d'aller de l'avant avec cette taxe imaginé et mis de l'avant par son propre, le gouvernement Trudeau, il a décidé de la faire sauter. Donc déjà, il y a plusieurs reculs et concessions qui sont faites par Carney jusqu'à maintenant.
Mais il l'a fait sauter.
On a hâte de voir jusqu'où ça va aller.
Il l'a fait sauter rapidement. T'sais. Il aurait pu la garder en banque en disant ce sera une valeur d'échange avec ce que les Américains veulent échanger avec nous, puis on prendra nos décisions comme les Américains prendront leurs décisions suite à ça. Mais il l'a tout simplement laissé tomber, puis on n'a rien gagné avec le fait qu'on a laissé tomber ça. Est-ce que la guerre, puis c'est vraiment une opinion personnelle que je te demande, là, Nicolas, ça n'a pas rapport avec la Fédération canadienne des contribuables, mais as-tu l'impression que la guerre tarifaire va arrêter à partir du moment où les Américains vont tellement souffrir de ces tarifs-là de Donald Trump qu'à un moment donné, à l'interne, on va tout simplement mettre beaucoup de pression sur Donald Trump pour qu'il arrête de faire ses conneries à travers le monde de tarifs par-ci, tarifs par-là?
Ben, j'ose espérer que oui, honnêtement, parce que c'est pas mal. Comment on peut dire ça? C'est qu'en réalité, tout le monde s'entend pour dire que les Américains, les tarifs qu'ils imposent présentement, c'est eux qui assument le coût. La stratégie de Donald Trump présentement, c'est de forcer les Américains à payer des tarifs sur les produits importés pour essentiellement, c'est les entreprises qui paient ces tarifs-là, mais on le sait à chaque fois, c'est remis aux consommateurs, ces tarifs-là. Mais il n'en reste que Ma stratégie, c'est dans un but de ramener les entreprises aux États-Unis, ramener la production aux États-Unis, faire en sorte que finalement, il y aura plus de tarifs qui seront appliqués si les entreprises produisent en sol américain. Ça, c'est la stratégie. Puis c'est une stratégie qui fonctionne sur du long terme, parce qu'on parle de chaînes d'approvisionnement, on parle de très grosses entreprises, on parle d'usines et tout ça, et qui fait en sorte que déménager une seule de ces entreprises-là ou une seule de ces chaînes d'approvisionnement d'une quelconque manière, ça peut prendre des années, ça peut coûter des milliards à plusieurs grands joueurs, plusieurs industries. Donc, les chances que ce projet de Donald Trump se réalise sur une courte durée, ne serait-ce que sur l'équivalent d'un mandat de 4 ans, c'est presque carrément impossible, à moins d'être une dictature totale. T'sais. Puis même là, même la Chine, je pense pas qu'il serait capable de faire un tel coup de poker comme ça. Fait qu'au final, les Américains, présentement, ils payent les tarifs et on le voit, il y a des augmentations de prix sur à peu près tous les produits dans les épiceries qui sont directement liés ou qu'on voit qu'il y a une corrélation directe avec les tarifs. Et donc, inévitablement, ça augmente le coût de la vie. Et les Américains, c'est un des indices qui les amène le plus souvent à se décider pour voter. Il faut le dire, un des indices les plus importants aux États-Unis, puis c'est pas pour les diminuer d'aucune manière, mais c'est le prix de l'essence. Là, en ce moment, le prix de l'essence est intéressant aux États-Unis, mais le prix de toutes les autres commodités, lui, a clairement augmenté. Et qu'est-ce qui s'en vient en 2026 qui permet aux gens d'exprimer leur désagrément par rapport à cette situation-là? Ben, c'est les élections de mi-mandat. Et les élections de mi-mandat, ça pourrait faire très mal à Donald Trump s'il ne change pas la donne, parce qu'éventuellement, les Américains, les États-Unis, en fait, pourraient tomber dans une récession. Déjà que leur pays s'endette encore plus avec le Big Beautiful Bill, qui est essentiellement un gros projet de loi extrêmement dépensé de Donald Trump, qui va augmenter la dette américaine de 2,1 trillions de dollars. Là, c'est quasiment la dette du Canada qu'on a accumulée en dedans de 150 ans, mais qu'eux autres, ils vont ajouter en dedans d'à peu près un an sur leur propre dette nationale. Pour vous donner une idée de l'échelle que ça représente, fait qu'au final, j'ai fait le tour pas mal, j'ai donc avec ma longue réponse, mais ce que je vais dire, c'est que il faut rester attentif à ce qui va se produire dans les élections du mandat l'an prochain, parce que si les Républicains perdent le Congrès, ils perdent le Sénat, il y a des bonnes chances qu'ils perdent le Congrès, le Sénat c'est un peu moins sûr, mais quand même, ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile pour Donald Trump de passer son agenda politique, et donc de facto, il va payer lui-même le coût de ses propres tarifs, puis on sait que inévitablement, même les Américains sont pas tout à fait d'accord avec cette approche. Là, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits. Donc, je pense qu'on va être gagnant de cette situation-là, mais pas de la manière qu'on l'espère, parce qu'on va en payer le prix nous aussi. Tant aussi longtemps qu'il maintient ses tarifs, nos entreprises en payent le prix également. Donc, il y a, dans la mesure où est-ce que les Américains se détournent des produits canadiens pour acheter ailleurs ou pour acheter local, parce que ça devient plus intéressant de le faire comme tel. Mais bon, on pourrait en discuter très longtemps, mais j'espère que la guerre commerciale va prendre fin plus tôt que tard.
Écoute, San Antonio, Texas, on s'entend au Texas, là, sont très, très républicain dans l'âme. San Antonio au Texas, 48% des industries qui font de l'import-export au niveau des exportations. Là, 48% des exportations prennent la route du Nord. Les Tesla, les Tundra, les Sequoia, les Toyota, l'aérospatial, produits pétroliers. La ville de San Antonio a vraiment besoin du marché canadien, puis c'est un endroit qui est très républicain, donc la pression va être énorme aux élections de mi-mandat pour Donald Trump. Je suis un peu d'accord avec toi, tu sais, j'imagine qu'on va essayer de s'ajuster avec le temps, mais il faut qu'il cesse avec ses tarifs, ses contre-tarifs. Tu sais, l'histoire du fentanyl, c'est une vraie joke, là. Je pense que depuis le début de l'année, on a intercepté, au niveau du fentanyl, là, du côté américain, le fentanyl qui provenait du Canada, c'était un genre de 30 kilos à peu près de fentanyl, ce qui est quand même majeur pour nous autres. Là. On regarde ça, tabarouette, ça peut en tuer du monde. Mais du côté des douanes entre le Mexique et les États-Unis, on est dans les 7000 à 8000 kilos de fentanyl qui a été intercepté. Je veux dire, on est à des années-lumière de ce que Donald Trump décrivait, là, comme quoi le Canada, c'était une vraie passoire pour ce qui est du fentanyl. Puis c'est en raison du Canada s'il y a des gens qui crevaient du fentanyl dans les rues. C'est la raison pour laquelle il arrivait avec ses tarifs. C'était du gros n'importe quoi. T'sais. Puis Donald Trump peut être un excellent homme d'affaires, mais parfois il peut manquer de jugement. Et quand il utilise des arguments comme le fentanyl du Canada qui arrive aux États-Unis, en regardant les statistiques, on s'aperçoit que c'est du gros n'importe quoi. Là.
Oui, ben, non seulement c'est du n'importe quoi, mais on l'a vu dans son dernier, sa dernière lettre qu'il a adressée à Mark Carney, où est-ce que c'était, il disait que c'était un honneur pour lui de mettre des tarifs de 35% sur le Canada. J'en ris, mais c'est pas drôle pantoute, mais c'est la manière que c'était formulé, que ça dépassait l'entendement. Mais où est-ce que c'était clair, en fait, c'est que, dans le fond, le fentanyl, c'est le bouc émissaire de l'histoire. La réalité, c'est que c'est plutôt la gestion de l'offre qui est vraiment dans le
Ben oui.
collimateur de Donald Trump. C'est mentionné noir sur blanc dans la lettre. Il parle des tarifs à cause des produits laitiers. Donc, c'est pas la première fois en fait qu'il en parle, là. En fait, ça a été répété à plusieurs reprises. C'est quand même assez particulier parce que les tarifs qui s'appliquent présentement sur les produits laitiers, qu'on importe parce que essentiellement on protège avec la gestion de l'offre l'industrie laitière au Canada et tout produit similaire. Donc, pas juste le lait, mais aussi la volaille, les œufs, etc. Mais n'en reste que c'est Donald Trump lui-même, dans les dernières négociations de l'ACEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui avait comme accepté ses tarifs sur les produits laitiers. Puis là, il se revire de bord en disant que finalement, la gestion de l'offre, il a pointé du doigt comme étant la responsable quasiment en partie du litige. Donc le fentanyl, il est pointé du doigt, mais entendons-nous, c'est pas le fentanyl qui vient du Canada qui tue énormément aux États-Unis.
Ben
Je veux
non.
dire, 1 gramme de fentanyl, c'est trop, là, on s'entend. Mais ceci étant dit, ça, si je peux me permettre le commentaire, nous, est-ce qu'on a déjà sanctionné les États-Unis quand des armes illégales des États-Unis se retrouvent de notre côté de la frontière? T'sais, rappelons que la plus importante tuerie qui a eu lieu au Canada dans les dernières années, celle de Pointe-à-Pitre, je pense en Nouvelle-Écosse, à moins que je me trompe, ça a été faite avec des armes qui étaient achetées illégalement, qui étaient importées des États-Unis. Je veux dire, est-ce qu'on s'est mis à mettre des tarifs sur les Américains parce qu'il y a des citoyens canadiens qui ont été tués par des armes qui venaient de chez eux? Pas... Non, mais je veux dire, parce que ça faisait aucun sens. Puis on s'entend que le fentanyl, la raison pourquoi c'est souligné, c'est à cause de la question de la frontière. Or, en ce moment, les passages à la frontière, il y a beaucoup plus d'Américains ou plutôt de gens en sol américain qui montent vers le Canada que l'inverse, quand on regarde les passages illégaux à la frontière ou les demandes d'asile. Donc, tout ça étant expliqué, je pense qu'au final, je veux dire, tous les justificatifs qui ont été mis de l'avant par l'administration Trump sont insoutenables, sont intenables, mais ce qui me dérange le plus au final, c'est pas juste l'attitude du gouvernement américain, mais aussi l'attitude du gouvernement canadien par rapport à ça. Parce que la seule différence entre un tarif et un contre-tarif, c'est le mot contre, puis le trait d'union qui suit. Parce qu'à la fin, un tarif ou un contre-tarif, ça revient au même. Si on répond à un tarif par un contre-tarif, puis au Canada, ça a été exactement la stratégie qu'on a empruntée. Et on avait vu, en fait, qu'en mars dernier, juste sur la courte période où est-ce que les tarifs ont été appliqués sur des produits américains, le gouvernement canadien est allé chercher pas loin de 600 millions de dollars dans les poches des consommateurs via les contre-tarifs. Donc, essentiellement, c'est des tarifs qui sont appliqués sur le jus d'orange, le café, des noix, des produits hygiéniques et autres. Donc, c'est des produits de même qui sont taxés à concurrence de 25% de plus, mais que c'est nous, des consommateurs, qui les assumons. Donc, je pense que si on peut dénoncer pleinement le gouvernement de Donald Trump pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en termes de guerre commerciale, faut quand même tenir responsable notre gouvernement d'avoir décidé de combattre le feu par le feu. Puis en ce moment, c'est les contribuables qui se brûlent.
La gestion de l'offre, quelle est la position de la Fédération canadienne des contribuables sur la gestion de l'offre? Puis, tu sais, je parlais avec un producteur fromager qui est aussi un producteur laitier, puis il me racontait un peu là, les aléas de son travail. Je me suis dit, tabarouette, quand je parle de ma job, il doit se dire, et ta job est vraiment pas compliqué. Lui, c'est un producteur laitier, il travaille 7 jours sur 7, des fois 12, 15 heures par jour. Il me racontait que des fois, ça peut aller jusqu'à 18 heures quand une de ses vaches accouche, là. Mais il me disait, bon, Yann, moi, je produis du lait que je vends à la Fédération. Okay? Bon, jusque-là, c'est correct avec la gestion de l'offre. Il a son prix, tout ça. Il essaie de ne pas dépasser ses quotas. S'il dépasse ses quotas, il fait semblant qu'il ne jette pas son lait, mais il empêche peut-être ses vaches de produire du lait, qui sait. Et ce qu'il me racontait, c'est que s'il veut faire du fromage, ben, le lait avec lequel il veut faire du fromage, faut qu'il donne la cote à l'association avant. Fait que son propre lait, il ne peut pas bénéficier du deal parce que c'est son propre lait. Son lait, il doit le vendre à l'association. Puis après ça, il utilise son propre lait pour faire son fromage, ce qui fait en sorte que lui, son fromage ne pourrait pas être compétitif s'il décidait d'exporter ça en France ou ailleurs dans le monde parce que ça coûte une beurrée en raison du fait que l'UPA veut sa cote constamment, t'sais.
Effectivement, je te dirais que pour la gestion de l'offre, notre côté à la Fédération canadienne des contribuables, on n'a pas encore pris de position claire là-dessus pour la simple et unique raison que on parle de produits laitiers, mais la gestion de l'offre, c'est effectivement une vache sacrée au niveau fédéral. C'est protégé mur à mur et c'est défendu par à peu près toutes les parties politiques. Et c'est aussi bien défendu par quand même une industrie qui a quand même une forte influence, on s'entend. Ceci étant dit, comme tu l'as mentionné, on voit énormément à quel point ça pénalise trop souvent les agriculteurs, à quel point ça amène trop souvent du gaspillage. Il faut dire aussi que le Canada est un des derniers pays, ne serait-ce que dans l'hémisphère nord et surtout en Occident, qui applique un tel mécanisme. Dans la plupart des pays européens, on n'a pas de gestion de l'offre comme telle. Si on regarde les autres pays du Commonwealth, comme par exemple la Nouvelle-Zélande et autres, on n'a pas de gestion de l'offre. On s'en est même débarrassé dans les dernières années et ça a permis une libéralisation des prix et des produits. Bien sûr, la Nouvelle-Zélande n'est pas dans le même contexte géographique que le Canada, où est-ce qu'on est collé directement sur les Américains qui ont une très grosse industrie agroalimentaire avec laquelle on sera en compétition directe. Et je dirais que la raison pour laquelle on n'a pas encore pris de position claire là-dessus, pour que les gens comprennent un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est que au final, si on élimine la gestion de l'offre, ben on la remplace par quoi? Dans une certaine mesure, ou comment est-ce qu'on compense les agriculteurs? Parce que essentiellement, il y en a qui profitent de ce système-là, mais
Oui.
qui ne pourront plus tirer de bénéfices d'une quelconque manière. Et ça, ben, je veux dire, ça pourrait affecter leurs revenus, ça pourrait affecter leur capacité, à assurer leurs opérations carrément. Et ben ça, on veut pas non plus se retrouver avec des fermes qui ferment carrément, avec des fermes qui arrêtent de fonctionner et qu'on soit plus en mesure d'avoir des produits sur nos étagères. Donc, faut quand même complètement analyser cette situation-là. Faut dire que
Parce
nous, à la
qu'on
Fédération,
applique, pour protéger la gestion de l'offre là, au Canada, on applique des tarifs aux Américains. Je pense entre
c'est
autres
ça.
aux œufs. C'est un tarif d'importation de 300 % qu'on applique sur les produits américains. Donc, si tu veux des œufs américains, là, il y a une surtaxe que tu payes de 300 % là.
Exact. En même temps, je me dis, je vais être honnête, vu que j'habite au Canada, je vois pas pourquoi j'achèterais des œufs américains.
Ben, j'allais dire la même
Si
affaire.
j'ose
Moi, je vais chez Metro puis j'achète les œufs qui sont là, puis je ne sais pas de quelle ferme ça vient.
Moi, si tu me dis que laisser des œufs qui ont commencé à venir de poules qui étaient à l'air libre ou pas à l'air libre, ça fait zéro différence.
Ça
Fait que si c'est des œufs américains, je verrais pas la différence non plus. Mais
goûte
par
pas la même
exemple, pour le
affaire.
lait.
Ils nous disent que ça goûte pas la même affaire.
Ben pour le lait, je suis prêt à accepter ça, par exemple. Ça, c'est vrai que le lait américain puis le lait qu'on trouve au Québec, c'est pas tout à fait la même
Ben,
qualité.
ça n'a pas le
Ça,
même goût.
j'accepte cette théorie.
Ça n'a pas le
Ça n'a pas le
même
même goût,
goût, mais
effectivement.
c'est de bonne qualité des deux côtés. Très souvent, les producteurs laitiers nous ont dit, ouais, mais les Américains, ils rajoutent ci, ils rajoutent ça. C'est extrêmement dommageable pour les Américains, ce qu'on rajoute dans le lait aux États-Unis. Non, c'est juste qu'on n'a pas la même façon de produire le lait. Puis ce qu'on ajoute dans le lait, c'est pas du tout la même affaire tant au Canada qu'aux États-Unis. Mais il n'y a personne qui creuse à boire du lait aux États-Unis.
Non, c'est
Non.
effectivement, là. Je dis, à moins que ce soit quelqu'un qui a une intolérance au lactose et qu'il ne sait pas, là. Mais sinon, au-delà de ça, ce qu'il faut dire, par contre, c'est que les Américains font beaucoup de pression pour qu'on se débarrasse de la gestion de l'offre, mais il ne faut pas non plus oublier le fait que les Américains subventionnent massivement leur secteur agroalimentaire, là, et donc les agriculteurs également. Donc, l'affaire, c'est que si tu élimines la gestion de l'offre, tu risques de te retrouver avec un système qui subventionne encore plus que présentement. Donc, il faut quand même être sûr de notre affaire avant d'aller plus loin là-dessus. Ceci étant dit, j'espère me tromper. J'espère me tromper. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans un sens, on n'est jamais avantagé quand on a un chef d'État qui recule. Mais j'ai l'impression que le recul du Canada face à la gestion de l'offre pourrait venir de la pression des Américains, surtout à voir comment est-ce qu'il y a eu un nombre assez important de reculs de la part de Carney depuis qu'il est devenu premier ministre et depuis qu'il se retrouve donc vraiment à négocier avec les Américains. Pour l'instant, je vais donner quand même le bénéfice du doute. Il reste encore, je pense, c'est jusqu'au 21 juillet qu'il y a des négociations ou c'est le 21 août. Bref, c'est dans les prochains jours que ça devrait se régler. Mais une chose est sûre, on est loin du discours qu'on nous avait fait où est-ce qu'on va se battre pour n'avoir aucun tarif. Là, c'est rendu qu'on nous concède qu'il va y avoir des tarifs, peu importe l'entente qui va être signée. Puis, si on veut les voir disparaître complètement, bon, on sait très bien c'est quoi les indicateurs, ou plutôt là, les demandes de Trump présentement. C'est la disparition de la gestion de l'offre et de d'autres mécanismes ou de d'autres formes de barrières commerciales. Il faut se rappeler, même la loi 96 du Québec était un peu dans le collimateur de l'administration Trump, là. Et donc, ça donne une idée à quel point on risque de se battre sur plusieurs volets avec les Américains pour protéger des intérêts canadiens ou québécois.
Puis les politiciens sont un peu fourrés avec la gestion de l'offre et la puissance des lobbies. Hein. Souviens-toi, bon, c'est peut-être pas un bon exemple aujourd'hui, mais dans le temps, ça en était un bon exemple. Maxime Bernier, qui voulait se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Canada, lui était contre la gestion de l'offre et voulait l'abolir. Et écoute, il était contre Andrew Scheer à l'époque, je me trompe, mais il me semble que c'était Andrew Scheer qui était là. C'est lui qui a passé exact. Finalement. Mais ils sont arrivés pratiquement kiff-kiff. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que comme Maxime Bernier voulait abolir la gestion de l'offre, les producteurs s'étaient associés, bien entendu, avec l'Union des producteurs agréés et avaient acheté des cartes de membres du Parti conservateur en grand nombre pour pouvoir voter. Et la majorité de ces gens-là, de l'UPA, avaient voté pour Andrew Scheer, ce qui avait malheureusement donné ce qui avait fait perdre Maxime Bernier et ce qui avait donné la victoire à Andrew Scheer.
Exact. Puis ben ça, comment dire, c'est une industrie ou c'est une organisation comme une autre, là. J'irais peut-être pas jusqu'à utiliser le mot cartel parce que c'est quand même un peu fort sur le café, même si dans une certaine mesure, c'est quand même une organisation qui, à la fin, maintient des prix et des mécanismes de prix en place.
À partir du moment où t'es supposé faire tes quotas, puis si tu remplis pas tes quotas ou si on s'aperçoit que tu vends ton produit à l'extérieur, comme c'est arrivé dans le cas du sirop d'érable, puis on te met des agents de sécurité sur ta propre terre. On peut dire que ça s'apparente beaucoup au cartel. En tout cas, moi, de mon côté, quand je regarde leur façon de faire, là, je suis quelqu'un qui fait du sirop d'érable. Je ne suis pas du tout d'accord avec la façon de faire. Puis là, tout d'un coup, je vois des agents de sécurité qui surveillent ma propre production. Je trouve ça un peu weird. Là, on voit ça dans le crime organisé, là, mais dans des organisations qui se respectent, normalement, on ne fait pas ça. Là.
Non, exactement. Mais je pense que ça démontre à quel point il y a vraiment des industries ou des lobbies ou même, dans ce cas-ci, des cartels qui ont une influence non négligeable sur le politique au Canada. On en parle rarement. C'est fou pareil parce qu'on oublie à quel point les couloirs qui mènent au Parlement, là, ou plutôt les couloirs du Parlement à Ottawa, sont remplis de lobbyistes en tout genre. Il n'y a pas juste l'industrie du laitière là, qui fait pression pour défendre ses acquis puis surtout s'assurer une défense par le milieu politique. Il y a aussi, on pourrait prendre l'industrie pétrolière, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'alcool. Bref, il y a vraiment plusieurs industries qui vont jouer comme ça. Et comme ça a été le cas durant les élections ou la course à la chefferie du Parti conservateur, je pense que c'était en 2017, si je ne me trompe pas, ben, on se rappelle effectivement que l'UPA avait joué un grand rôle là-dessus. Puis même, il faut rappeler 2018, parce qu'en 2018, il y avait le début des fameuses négociations entre le gouvernement Trudeau et l'administration Trump, ou du moins la première administration Trump par rapport aux ententes de libre-échange qui donneraient naissance à l'ACEUM par la suite. ACEUM qui, depuis ce temps-là, va s'être encore renégocié prochainement. Mais au final, on se rappelle qu'il y a eu une conférence de presse de tous les chefs de partis politiques du Québec. Donc, à l'époque, bien sûr, Éric Duhem n'était pas encore dans l'eau, mais il y avait Philippe Couillard, il y avait François Legault, qui n'était même pas encore premier ministre. Il y avait aussi, je pense, GND. Gabriel Nadeau-Dupois, et vous aviez, là, je pense que c'était Jean-François Lisée ou quelque chose de... Bref, je ne me souviens pas. Je pense que tous les chefs étaient là et ils ont tous dit on appuie la gestion de l'offre. Donc, vraiment, alors que la gestion de l'offre, c'est drôle parce que c'est fédéral. Donc, au final, que ce soit au Québec ou que ce soit à Ottawa, vraiment, il y a comme une sorte de consensus, puis ça semble impossible à ébranler ce consensus-là. Ceci étant dit, on risque peut-être d'être mis au pied du mur parce qu'on parle de Donald Trump présentement, mais ce n'est pas le seul qui a émis des commentaires par rapport à ce système-là. Même les Anglais, ou plutôt le Royaume-Uni, a dénoncé l'existence de la gestion de l'offre au Canada, puis comme quoi ça aurait nuit aux accords de libre-échange avec l'Europe de la dernière fois qu'il y en a eu. Donc, à quel point est-ce qu'on devrait continuer à défendre cette vache sacrée-là? C'est une bonne question. Maintenant, c'est à savoir par quoi on la remplace puis comment on le fait. Puis ça, c'est une discussion que je ne sais pas à quel point le monde politique est préparé à ça. Il faut dire qu'à Québec, on se bat, on a une Assemblée nationale qui se bat bec et ongles pour maintenir des taxes en place alors que le reste du Canada les a abolies. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi pour la gestion de l'offre, mais c'est une discussion qu'on n'aura pas le choix d'avoir éventuellement.
Écoute, Nick, c'est pas un sondage scientifique là, parce que c'est des gens qui me parlent à moi. Là, mais c'est des agriculteurs. J'étais un gars qui a été longtemps en Beauce pendant plusieurs années, donc je me suis fait des contacts du côté des agriculteurs. T'as pas idée du nombre d'agriculteurs qui me contactent, qui écoutent les émissions, puis qui disent « Hey Yann, moi, je te vote bord, l'abolition de la gestion de l'offre, l'abolition de la gestion de l'offre. » Puis il y en a d'autres qui m'écrivent, puis qui sont tout à fait honnêtes, là, qui me disent « Yann, nous, la gestion de l'offre, ça nous aide grandement, patati et patata. » Mais ce qui est particulier, c'est quand je leur demande, est-ce que vous voulez nous en parler en ondes, 100% des gens qui sont pour la gestion de l'offre veulent parler en ondes, et 100% des gens qui veulent abolir la gestion de l'offre et qui sont agriculteurs veulent pas parler en ondes. Fait que je te parlais de cartel tantôt. Il y a quelqu'un qui fait peur à quelqu'un, puis un jour, ça sera peut-être, mais parler aux autres pour abolir la gestion de l'offre quand ils sont agriculteurs, c'est pas, c'est comme dire Voldemort là, à l'école d'Harry Potter. tu peux pas parler de ça.
Ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment dommage parce qu'à la fin de la journée, on est-tu dans une démocratie libérale ou on ne l'est pas? T'sais, éventuellement, les gens devraient pouvoir s'exprimer quand ils font un métier et qu'ils réalisent qu'il y a des mécanismes, des organisations ou une forme de taxation qui est irrégulière ou qui les force en fait à ne serait-ce qu'à gaspiller, à se débarrasser de produits alimentaires parce qu'ils ne peuvent pas le vendre, parce qu'il y a des systèmes de quotas. Bref, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas les dénoncer librement? Nous, on peut le faire parce que d'une certaine manière, comme je l'ai dit, nous, à la Fédération, notre position n'est pas encore précise là-dessus parce qu'on en discute, bien sûr. Pourquoi on en discute? Parce qu'il y a des négociations qui vont sûrement affecter cette gestion de l'offre à court, moyen, long terme. Et inévitablement, on va devoir se positionner. Éventuellement, on va le faire. Mais ceci étant dit, je veux dire, dans l'immédiat, c'est quand même pas normal que ceux qui en payent le coût directement se sentent menacés d'en parler librement. Pour moi, ça démontre, comme tu l'as mentionné, que finalement, c'est peut-être plus un cartel qu'autre chose, puis il faudrait peut-être que le gouvernement arrête de le défendre, ce cartel-là.
À la Fédération canadienne des contribuables, vous faites un sondage national actuellement ou il va commencer bientôt?
En fait, va commencer bientôt, fort possiblement en fin de semaine. Dans le fond, on fait un sondage. On fait plusieurs grands sondages annuels auprès de nos sympathisants. On a plusieurs centaines de milliers de sympathisants à travers tout le pays. Il faut rappeler qu'on est quand même une organisation qui existe depuis 35 ans. Donc, on a quand même ratissé large. Puis on a des gens dans toutes les provinces qui nous appuient, qui nous lisent et qui participent à nos pétitions. Puis n'importe qui peut le faire, c'est gratuit. Et dans le fond, ce qu'on fait à chaque fois, en fait, à peu près à toutes les saisons, on fait un grand sondage national pour connaître les orientations. Des contribuables, savoir ce qu'ils veulent de nous, en fait, pour la prochaine année, ce qu'ils espèrent qu'on va se battre pour. Donc, des différents combats, différentes campagnes, des idées qu'ils peuvent nous proposer. Des fois, ça peut être carrément une petite idée comme ça, genre juste de changer de branding, ou sinon, ça peut être une idée du genre j'aimerais ça que vous vous battiez contre telle taxe ou tel impôt, la gestion de l'offre, un coup parti. Bref, on a toutes sortes de recommandations. Donc, c'est un sondage qui nous permet vraiment de consulter plusieurs centaines de milliers de personnes d'un coup. Bien sûr, on ne fait pas juste leur envoyer le sondage. Nous, on lit les résultats par la suite. Fait qu'on passe quasiment une semaine et demie à juste passer à travers tous les résultats puis ce qui a été écrit par les gens parce qu'ils peuvent pas juste répondre des choix de réponse, mais aussi indiquer des commentaires. Donc, ça leur permet vraiment d'être plus libre dans leurs propositions. Et nous, cet automne, ça va nous permettre d'avoir le guideline complet pour se dire OK, on s'en va dans quelle direction cet automne. Là, bien sûr, on fait ça au niveau fédéral. Parce que c'est à l'échelle nationale, donc on n'y va pas directement par province, mais il y aura un autre sondage qui va sortir cet automne, cette fois-ci pour les orientations provinciales, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un terrain à préparer au Québec, il y a des élections provinciales qui s'en viennent l'année prochaine, donc déjà commencer à préparer les armes pour ce grand combat, aussi s'assurer d'avoir les bons enjeux qui répondent aux aspirations et aux attentes de nos supporters, mais aussi de tous les contribuables. Et donc c'est ça qu'on fait présentement, puis je tiens aussi à rappeler qu'on ne fait pas juste une consultation auprès de nos membres. On n'est pas les seuls à faire ça cet été. Il semblerait aussi que le gouvernement fédéral fait aussi des consultations en prévision de son budget qu'il va déposer cet automne. Et ça, c'est des consultations qui sont ouvertes jusqu'au 28 août prochain. Mais nous, à la Fédération, on s'assure à ce que le maximum de personnes puissent y participer parce que c'est important que vous, les payeurs de taxes et contribuables, vous soyez entendus par le gouvernement fédéral parce qu'il va nous déposer fort possiblement un budget qui va être déficitaire, qui risque de frôler les 100 milliards du jamais vu depuis peut-être la pandémie avec Trudeau à l'époque. On se souvient comment est-ce qu'on a défoncé le fameux plafond de verre là, puis qu'on a atteint une dette colossale. Mais pour venir à ça, il n'en reste que vous méritez quand même de pouvoir vous exprimer puis de vous faire entendre, puis c'est la consultation parfaite pour ça, puis on va s'assurer à ce que vous soyez des centaines de milliers à le faire. Donc, abonnez-vous à nos infolettres, à signer nos pétitions, rendez-vous sur notre site web contribuable avec un S.ca. Comme je vous dis, c'est gratuit. Si vous voulez faire un don, c'est bienvenu, mais c'est pas obligatoire. Et à la fin, ben, vous pourrez être contacté, puis vous allez être contacté très prochainement pour aller sur cette fameuse consultation prébudgétaire, puis on va s'assurer de faire pression pour que Carney, quand il va écrire son budget là, avec François-Philippe Champagne, ben, ça va être vos opinions et vos idées qui vont compter le plus.
Ça te fait-tu peur, l'arrivée des élections au Québec dans les prochains mois? Il reste à peu près, quoi, un an, là, un an et quelques. Le gouvernement de Mark Carney au fédéral essaie de couper dans certains endroits, même affaire pour ce qui est de la coalition Avenir Québec. Bernard Drinville qui voulait couper des centaines de millions de dollars en éducation, qui a été obligé de faire un volte-face. Il nous a annoncé hier un 540 millions de dollars qu'on allait donner aux écoles. Et on mentionne « à condition que cela ait ça allait vraiment aux enfants, tu sais, comme si les gens des commissions scolaires, c'était tous des voleurs. Là. Je trouvais ça assez particulier. Mais là, j'ai l'impression que dans les prochains mois, la coalition Avenir Québec va donner à tout le monde l'argent que tout le monde demande. Parce que tu sais, s'il y avait des élections demain matin, malheureusement pour eux, là, ils seraient complètement éradiqués de la carte à la grandeur. Et ce serait le Parti québécois qui aurait fait une lutte avec le Parti libéral, si on en croit les sondages sur Québec 125, entre autres. Là, le gouvernement va se mettre à genoux pour ce qui est des prochains mois. Là. Ils vont essayer de se rapprocher des syndicats, des gros groupes de pression pour être sûr et certain d'avoir un maximum de votes pour aux prochaines élections. Puis bien souvent, ben, ça passe par sortir l'argent des poches des contribuables. Ça vous stresse-tu, les élections?
Oui, surtout les budgets, en fait, parce que si celui qu'on a vu cette année était déficitaire comme ça n'a pas de bon sens, le 13,6 milliards de déficit, une décote de Standard & Poor's, puis c'est surtout comment est-ce que les choses ont été faites, parce que d'un point de vue un peu plus machiavélien, la CAQ s'est complètement plantée dans ce mandat-là, objectivement, parce que d'habitude, quand on est un gouvernement qui veut faire le ménage dans les finances publiques, on commence par faire le ménage, puis après ça, quand arrivent les élections, là, on délie un peu les cordons de la bourse puis on commence à distribuer des nananes. C'est un peu ça qu'a fait, entre autres, à peu près toutes les parties, là, même le gouvernement conservateur de Stephen Harper, c'est exactement ça qu'ils ont fait dans le temps. Ils ont fait des coupures jusqu'à arriver à l'équilibre budgétaire puis commencer à distribuer des chèques de TPS par la suite, juste avant les élections. Donc, c'est une bonne vieille stratégie qui, honnêtement, je ne sais pas à quel point elle fonctionne, mais ça fonctionne bien mieux que de commencer le mandat en se distribuant des augmentations de salaire de 30 % aux élus de l'Assemblée nationale, puis après ça, d'offrir sur un plateau d'argent des concessions aux syndicats pour les conventions collectives dont on n'avait clairement pas les moyens d'offrir, mais qui sont allés quand même de l'avant, du moins la CAQ est allée de l'avant, ou plutôt même Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, a décidé de faire ces concessions-là pour éviter de devoir essentiellement sortir une loi spéciale, puis de jouer un peu comme c'est d'être le méchant dans la pièce. Donc, ils ont décidé plutôt de distribuer le maximum d'argent que possible à ces syndicats-là. Résultat, on se retrouve avec des budgets déficitaires à répétition. Le coût de la fonction publique a carrément explosé dans les dernières années. Et là, on arrive et on dit, ben, il faut qu'on fasse le ménage parce que on a des signaux d'alarme qui nous viennent des agences de crédit. Standard & Poor's, oui. Peut-être que les autres agences de crédit, pour l'instant, maintiennent la cote de crédit du Québec à moins ou à triple A, aux affaires comme ça, mais c'est très temporaire. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient cet automne, où est-ce que ces informations-là vont nous dire, finalement, est-ce que ce qui a été présenté dans le budget la dernière fois, en mars dernier, c'est soutenable? Est-ce que ça tient la route? Puis si c'est pas le cas, ben là, ça risque d'envoyer d'autres indicateurs, d'autres voyants rouges, là, en fait, aux agences de crédit. Puis finalement, il y a le budget qui s'en vient en mars 2026, qui va être peut-être le dernier budget de la CAQ. Et eux, ils vont quand même tout faire pour que ce soit pas leur dernier budget. On s'entend, ça n'existe pas un gouvernement qui accepte son sort et qui dit « on va disparaître dans le silence ». Non, ils vont fort possiblement, comme tu l'as mentionné, essayer de sortir peut-être des d'autres baisses d'impôts. Il faut rappeler que la CAQ, ils ont peut-être encore ça dans leur sac, parce qu'en 2022, quand ils ont été élus sur la promesse d'une baisse d'impôts de 2,5 % sur les deux premiers paliers d'imposition. Ils ont juste livré 1 % donc 1 point de pourcentage de baisse d'impôts en juillet 2023, mais ils disaient que le reste serait livré à compter du lendemain des élections de 2026. Donc, on devrait comprendre qu'il va y avoir d'autres baisses d'impôts qui vont être promises dès l'année prochaine. Donc ça, je m'attends à ce que ce soit sur leur feuille, dans leur agenda, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres concessions qui soient faites. On s'entend, le troisième lien de Québec, je veux dire, s'il n'y a pas de première pelletée de terre donnée à ce projet-là d'ici l'année prochaine, je pense que la CAQ peut abandonner la région de Québec, là, parce qu'ils vont, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de sièges dans la région si jamais ce projet-là ne va pas de l'avant. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des concessions qui soient faites sur tous les dossiers possibles. Puis malheureusement, ce que ça va donner, ben, on l'a déjà vu, ça va être des finances publiques encore plus dans le rouge, encore plus déficitaires qu'on l'a vu, et ça va coûter encore plus cher aux contribuables demain et du futur pour rembourser à la fois la dette du Québec, mais aussi en assumer le coût en termes des intérêts annuels comme on le paye présentement. Il faut le rappeler, là, on paye présentement 10 milliards de dollars en intérêts pour couvrir la dette du Québec, puis ça ne la fait pas diminuer aucunement. Donc, c'est 10 milliards de nos taxes et impôts, c'est environ 1065 dollars par Québécois qu'on paye, et ça ne va nulle part d'autre que sur une dette qui continue d'augmenter. Ça, c'est le leg de la CAQ jusqu'à maintenant. Puis si, en 2026, ils continuent à distribuer des nananes comme on devrait s'attendre de leur part, bien, fort possiblement que ça va coûter encore plus cher aux Québécois sur le long terme.
La CAQ a été créée par François Legault, Charles Sirois, qui avaient tous deux des profils économiques de droite, là. Et d'ailleurs, quand ils ont fait leur campagne électorale, leur première campagne électorale, François Legault faisait des promesses qui étaient de droite économique, réduction du gouvernement, essayer de ne pas dépenser l'argent des Québécois pour rien. Et une fois rendu au pouvoir, on a complètement mis ça centre-gauche et c'est d'une catastrophe. Puis là, j'ai l'impression que le bilan de la CAQ, on va tenter de le comparer avec le budget ou le déficit du Canada. Ouais, mais regardez, comparativement au Canada, on n'est pas si pire. Oui, on a des déficits, mais ça va quand même assez bien. On va tenter de minimiser les choses, au même titre que quand on s'est fait décoter, là, le premier ministre ainsi qu'Éric Girard prenaient ça à la légère, alors que c'est les Québécois qui devront encore une fois payer cette décote-là. Je suis pas mal persuadé qu'ils vont tenter de minimiser les choses. Puis il y a encore des Québécois qui vont probablement se faire avoir, là, j'en suis persuadé. Puis ils vont revoter aux prochaines élections. Mais savez-vous quoi? Vous voterez pour qui vous voudrez, mais des fois, quand on dit qu'on a le Québec qu'on mérite... Des fois, j'ai pas... T'sais, j'avais cette discussion-là avec Alex Boissonneau qui se présente dans Arthabasca. D'ailleurs, on parlera d'Arthabasca dans les prochaines secondes après la pause, si tu le veux bien. Mais lui, il nous a, lors de la conférence de presse, là, Alex Boissonneau, il nous a dit « Je suis un gars de droite économique. » Tu disais, tu te présentes pour le Parti québécois. Tu dis que tu es de droite économique. Et là, il dit, en entrevue, il me dit « Ouais, mais j'ai toujours été de droite économique. » Non, vous n'avez pas toujours été de droite économique, là, parce qu'en 2017-2018, quand Fidel Castro est mort, vous lui avez dit « Bye, mon commandant ». Ça, c'est pas mal un peu à gauche, là, et très, très, très à gauche, là. Puis, bon, on s'est jasé et tout ça. Puis lui, il dit qu'il a évolué, puis avec raison. Je veux dire, quand t'es rendu adulé à Fidel Castro, il y a toujours bien des limites. Et ces politiciens nous font toujours cette chose-là, c'est-à-dire « Hey, on fait une campagne électorale de droite économique ». Mais une fois rendu au pouvoir, on dirait que c'est compliqué d'être de droite économique, là. La preuve, c'est qu'on n'en a jamais eu au Québec, un gouvernement de droite économique, à moins que je me trompe, là. Y a-t-il un gouvernement qu'on a eu dans les 10, 20, 30 dernières années qui était un gouvernement de droite économique, là? Y a eu les libéraux qui ont bien géré l'argent, là.
Ouais, ben il y a eu, mettons, on peut prendre l'exemple, ce que certains appellent l'austérité libérale de 2014-2018, que honnêtement, je n'accepte pas du tout ce terme-là, le mot en A, parce que à la fin, il n'y a pas eu d'austérité, là. La réalité, c'est qu'il y a eu des petites compressions budgétaires, puis après ça, les budgets ont continué à augmenter comme si c'était rien, là, finalement. Là, on pourrait carrément dire que l'austérité n'a pas eu lieu. C'est drôle parce que Drainville, il n'y a pas si longtemps, pour expliquer les compressions en éducation, mettait le blâme sur l'austérité des libéraux, là, qui remontait quasiment 10 ans en arrière, là. Donc, comme quoi, est-ce que c'est facile d'utiliser cet exemple-là, mais au final, c'est vrai. On peut citer, d'une certaine manière, droite économique, le travail de Carlos Letao puis de Martin Coiteux. Martin Coiteux, qui est quand même quelqu'un qui a été à l'Institut économique de Montréal, donc c'est quand même pas quelqu'un qu'on peut associer à la gauche non plus. Et ils ont quand même réussi à nous livrer le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec, là. C'était 7,4 milliards. C'est ça qui était sur un plateau d'argent quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, qui les attendait dans le trésor du gouvernement. Sinon, si on retourne plus en arrière, j'aurais tendance à dire que la dernière fois qu'on a eu un véritable gouvernement de centre-droite, ça a été plus Lucien Bouchard dans les années 90. Là, on peut s'entendre pour dire que ça, c'était de la droite ou ou genre Parizeau aussi, c'était pas mal plus à droite. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, on parlait d'Alex Boissonneau il y a quelques instants, qui se définit comme de centre-droite et pour le Parti québécois. Ben, s'il s'inspire de cette période-là, s'il se dit, ah, ben, je suis de centre-droite parce que je m'inspire de Lucien Bouchard puis de Parizeau, là, je suis comme, OK, je comprends un peu le lien qui peut se faire. Mais dans l'identité actuelle du Parti québécois, je vois un peu mal le centre-droite. Mais c'est ça, il faut retourner, comme tu l'as mentionné, au moins, soit quelques années en arrière, donc pré-CAQ, là, vraiment l'époque Couillard, qui a été juste un 4 ans. Puis honnêtement, on dit centre-droite, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont faites au niveau de ce gouvernement-là qui n'ont pas tout à fait été très libérales. Ou sinon très ouvert sur les questions de réduction d'impôts, de taxes. On n'a pas vraiment eu beaucoup sur cette période-là. En fait, on n'a pas eu du tout. Donc, il y a quand même ça à considérer, mais sinon, effectivement, dernier gouvernement de centre-droite, je pense qu'on peut reculer aux années 90, puis ça démontre à quel point la rigueur budgétaire ou la notion même de gérer les finances publiques comme du monde, puis de t'assurer le maintien d'un écosystème économique qui attire les investissements puis qui permet à l'économie de se développer librement, bien, cette mentalité-là, elle a été quasiment obnubilée, occultée, en fait, au cours des dernières années, puis au détriment de politiques qui sont beaucoup plus dépensières. Puis c'est drôle, parce que tu mentionnes les politiciens qui font la politique à droite quand c'est le temps des élections, puis qui se font, une fois qu'ils sont élus, ils virent à gauche, ce qui est quand même assez surprenant parce que Carney, il nous fait l'inverse. Exact. Il a fait un peu campagne en étant à gauche, puis là, il se retrouve à mettre l'avant des politiques qui sont dignes du Parti conservateur du Canada. Donc lui, il est peut-être l'exception à la règle dans les dernières années, mais c'est quand même assez rare à observer.
Voyons voir s'il réussira. Hey, on parle avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. T'as encore un peu de temps, Nick, on va faire une courte pause, puis on peut jaser encore 4-5 minutes après?
Avec grand plaisir.
Parfait. Contribuable avec un S.ca.
Marceau, le soir.
Boulevard.
Checklist de vacances.
Un speedo, comme ça l'air, l'application Boulevard 102.1. Gratuit sur App Store et Google Play.
102.1.
Votre demande de pardon est importante pour vous? Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. IdentitéQuébec.ca. À un clic de votre liberté.
Du 17 au 20 juillet, c'est la grande vente porte ouverte chez Escale VR Beaumont. Venez déguster de délicieux mini-burgers et breuvages en collaboration avec Alimentation Mon Quartier. Profitez du Noël des campeurs avec des rabais incroyables jusqu'à 30 000 sur une vaste sélection de VR. Financement sur place disponible avec un taux d'intérêt exclusif à Escale VR. C'est l'événement à ne pas manquer chez Escale VR Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20. Escale VR Beaumont, là où l'aventure commence.
Papa Roach est de retour. La tournée The Rise of the Roach, une célébration des 25 ans de l'album Infest, avec une production plus grandiose que jamais. Le 22 juillet, à l'Agora du Port de Québec, Papa Roach. Billets en vente maintenant sur evenco.ca. Ne manquez pas Papa Roach et la tournée The Rise of the Roach.
Tu penses t'acheter une voiture prochainement? T'en veux pas une neuve, mais une comme neuve? Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Va voir nos comme neuves au commeneuve.com.
Encore un texto pour un colis que j'ai pas commandé. J'efface.
Bon réflexe. Moi, ils se sont essayés par courriel la semaine passée. C'était crédible, mais l'URL avait aucun sens. J'ai pas cliqué.
Paraît que les fraudeurs peuvent imiter la voix de quelqu'un avec l'intelligence artificielle.
Ah, ben ça prend de l'intelligence naturelle pour déjouer ça.
Exact.
Les fraudes se multiplient. Multipliez les réflexes pour vous protéger. Visitez desjardins.com/sécurité pour apprendre à prévenir, reconnaître et signaler les fraudes.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviroconfort grâce à nos thermopompes et climatiseurs de marque reconnue. Thermopompes, climatiseurs murales ou centrales, accumulateurs de chaleur et géothermie, plusieurs produits disponibles selon vos besoins. Enviroconfort, le choix du consommateur en chauffage et climatisation.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Avec Laval Volkswagen, économisez sur l'essence pendant vos vacances. Passez à l'électrique avec le Volkswagen ID4 2024. 0% jusqu'à 72 mois, 4 000 $ de rabais gouvernementaux, en plus de 11 000 $ de rabais additionnels. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Vos jambes vous font souffrir? Vous avez des varices aux jambes? profiter des vacances d'été pour bénéficier de l'expertise des médecins de la Clinique de phlébologie de Québec. Venez nous rencontrer. Nos services sont offerts pendant toute la saison estivale. Pour des jambes en santé, visitez veines.ca.
Grâce à Fred, notre petit bouffeur de prix IGA,
allô?
Obtenez les plus bas prix avec les prix vérifiés garantis ou recevez automatiquement la différence en points de plus. C'est garanti.
Garanti.
Jusqu'au 23 juillet, les galettes de bœuf hachées mi-maigre Sterling Silver sont à 4,99 $ la livre, le Coca-Cola ou le Pepsi sont à 3,27 $ pour 6 bouteilles de 710 ml, l'eau de source Esca est à 3,77 $ pour 24 bouteilles de 500 ml. IGA, vive la paix d'esprit.
Paix d'esprit.
Valable dans les magasins participants. Détails en circulaire et à IGA.net.
Depuis plus de 100 ans, la CSN est là pour soutenir les travailleuses et les travailleurs du Québec. Même quand ça brasse. La CSN, le maillon fort depuis 1921.
Aujourd'hui, Nissan est la marque automobile la plus primée du Consumer Guide 2025. On rejoint Karine.
Oui, je suis sur le terrain avec le tout nouveau Nissan Kicks, un VUS sous-compact audacieux et le plus vendu chez Nissan. C'était Karine Vanas pour les concessionnaires Nissan du Québec.
Merci, Karine. Louez le Kicks S à partir de 367 $ par mois pour 60 mois avec 0 $ d'acompte, incluant une réduction fidélité pour les propriétaires Nissan admissibles. Jusqu'au 31 juillet, sur approbation de crédit, valeur de 30 057 $, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Papa, je suis obligé de mettre mon habit de main.
Fait que moins 25, moins 27, le ressenti. Assurez-vous d'être bien habillé demain matin, parce qu'il va faire plus frais.
Ah, tu me niaises-tu, là? Pourquoi c'est encore bouché ici?
Oui, il y a un accident, donc un incident sur... voyons...
La route?
Sur la route, oui, là, sur Wilfrid Hamel. En fait, c'est pas vrai, c'est sur la capitale.
Boulevard 102.1, quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est encore avec nous pour quelques minutes. On va se dépêcher, je vais parler plus vite, on va passer au travers de tous les sujets.
Oui, hey, c'est tout suite.
On parlait d'Arthabasca, on en a parlé un peu dans le show du midi, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée, mais c'est épouvantable de voir les coûts astronomiques que ça nous coûte en tant que contribuables quand il y a une élection partielle. Quand un individu décide que... pour le bien de sa famille, pour sa santé, pour des aspirations politiques autres, ben, il va quitter pendant son mandat. Très honnêtement, je pense que tu vas être de mon côté quand je vais dire, écoute, quand c'est pour des raisons de santé, c'est normal que tu puisses quitter ton mandat sans aucun problème. Mais quand tu t'engages pour 4 ans, ça devrait être un vrai engagement pour 4 ans et jamais le contribuable devrait sortir une scène parce que toi, tu décides de changer d'idée. Y a-t-il un moyen de changer ça? Tu sais, 600 000 $ pour une partielle. Est-ce qu'on pourrait charger un certain montant aux partis politiques qui étaient responsables de cette circonscription-là? Est-ce que l'élu pourrait donner une partie de son salaire parce qu'il n'a pas respecté l'entente qu'il avait avec ses citoyens au départ? Y a-t-il des façons que vous voyez à la Fédération canadienne des contribuables pour tenter de pallier à ces coûts-là qui sont astronomiques dans une partielle? On peut-tu donner la deuxième place? On peut-tu donner le comté à la personne qui est arrivée deuxième dans le dossier? T'sais, je sais pas.
Il y a plusieurs options qu'on peut mettre sur la table. C'est sûr que, écoute, la première des choses qui me vient à l'esprit quand on me dit qui devrait payer pour une partielle, bien, je pense effectivement que ça ne va pas être les contribuables qui payent parce que quand on regarde le coût de la partielle dans Jean Talon, où est-ce que Joël Boutin avait apparemment quitté la politique pour des raisons familiales et autres, finalement, elle était à LCN ou à TVA quasiment même soirée de l'élection partielle dans Jean Talon.
Mais ça, Nick, c'était clairement de la bullshit parce que le lundi suivant, elle avait une job déjà, un genre de 40 heures semaine, puis c'est apparitions à la télé étaient déjà négociées. Ça veut dire qu'en tant qu'élu, elle était sur le payroll de l'Assemblée nationale puis elle se négociait pour son prochain emploi. Puis ça a été la même affaire pour le candidat de la Coalition Avenir Québec qui était dans la circonscription d'Arthabasca. Lui, il a dit « Moi, je me présente au fédéral, au diable provincial. » Puis pendant le temps qu'il était sur le payroll de l'Assemblée nationale, bien, il préparait sa future carrière à Ottawa, ce qui est d'une tristesse quand tu vois ça en tant que contribuable.
Oui, c'est une tristesse, puis en même temps, après ça, ces mêmes personnes-là ou leur entourage politique se demandent pourquoi est-ce que les gens perdent confiance en les politiciens puis en les institutions. Ben, je sais pas, peut-être parce que ces politiciens-là agissent vraiment de manière assez déplorable. Moi, je le dis franchement, parce que, entendons-nous, on connaît un peu le milieu des communications. Ben, se trouver une job dans le milieu des communications, comme le fait, par exemple, Mme Boutin, puis je veux pas non plus faire de la diffamation sur son cas d'aucune manière, mais il n'en reste que, je veux dire, on n'arrive pas par inadvertance dans le milieu. C'est pas en une semaine, un coup de téléphone, qu'on s'amasse à la télévision. Disons-le franchement. Puis pour les autres, pour Fitzgibbon, entre autres, Pierre Fitzgibbon, c'est drôle parce que lui, il a quitté la politique. Puis lui, c'était pour l'amour, apparemment, qu'il a quitté la politique. On se souvient là, l'excuse qu'il avait donnée. Donc, mais tu sais, la partielle pour le remplacer, là, parce que monsieur a trouvé l'amour, ça a coûté pas loin de 715 000 $ aux contribuables. Là. Fait que j'espère que l'amour en valait la peine parce que ça a coûté cher pour les autres. Puis là, ben, il y a l'élection partielle dans Arthabasca, l'érable, où est-ce que là, comme tu l'as mentionné, c'est littéralement quelqu'un qui est allé se magasiner un meilleur salaire. Je ne remets pas en question ses positions idéologiques. Je ne remets pas en question le fait qu'Éric Lefebvre est peut-être quelqu'un de très travaillant, qui a des bonnes connexions dans sa circonscription, dans sa communauté, puis qui va peut-être faire avancer des dossiers au niveau fédéral, peut-être. Je ne remets pas ça en question. Mais quand même, là, passer du provincial au fédéral de même, laisser un peu en pan, en fait, ses propres citoyens, parce qu'ils ont été plusieurs mois sans député, donc les dossiers n'avancent plus. Et là, lui, il continue à encaisser le salaire, puis après ça, s'en va à Ottawa. On fait plus 130 000, on s'en va plutôt chercher un salaire à 200 000 à Ottawa à la place. C'est plus intéressant. Parce que c'est carrément ça, le décor est quand même assez intéressant.
Mais c'est-tu lui qui est cave de l'avoir essayé puis d'avoir réussi ou bien c'est les gens qui se sont dit « Hey, tu sais quoi? On va le réélire, mais au fédéral cette fois-là. » T'sais, moi, lui, là, il a juste amélioré son sort puis il a profité d'une faille dans le système pour pouvoir continuer d'être député provincial pendant le temps qu'il préparait sa campagne au fédéral. T'sais, qu'on accepte ça, là, je veux dire, c'est... Toujours bien nous autres, là, avec des moyens de pression qui peuvent mettre des règles en place. Là, ça a été accepté. Puis lui, tout simplement, il a juste switché. Puis les gens l'ont élu. C'est peut-être la population le problème, Nick, dans ces cas-là.
Ben, c'est effectivement, c'est, je veux dire, à la fin de la journée, c'est eux qui l'ont réélu, puis c'est d'où le fait que je dis, ben, peut-être qu'effectivement, il fait un très bon travail dans son comté, puis c'est la raison pour laquelle des gens ont dit, ben, c'est pas si grave qu'il ait décidé de quitter son poste. De toute manière, peut-être que dans cette circonscription-là, les gens aimaient Éric Lefebvre, mais n'aimaient plus la CAQ. Donc, peut-être qu'il se le faisait dire assez souvent, puis se faisait dire, finalement, j'aurais peut-être m'en aller, puis préparer mes boîtes avant de me faire mettre à la porte aux prochaines élections provinciales. Regarde, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a clairement eu une négociation qui s'est faite entre le moment où il était député, que ce soit un député indépendant ou un député de la CAQ qui a décidé